France Musique.
Bonsoir à tous, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi et nous offrons ce soir notre carrefour de la création au chef d'orchestre Léo Margue. Rendez-vous à 22h. À 23h, ce même Léo Margue dirigera la création mondiale de Michel Agnès Magalèche. À 23h30, l'Expérimental vous propose un documentaire sur Eliane Radig. On se retrouve à 21h pour l'actualité du disque. Mais tout de suite, voici les archives de Marc Monet par Arnaud Merlin. Belle soirée.
Bonsoir à tous. Le concert d'archives du dimanche est consacré cette semaine au compositeur Marc Monet, qui est aussi, et depuis toujours, un formidable organisateur de manifestations musicales. Il est encore cette année le conseiller artistique du Printemps des Arts de Monte-Carlo, qui se tiendra presque normalement, les concerts étant ouverts au public et regroupés sur une période un petit peu plus courte, du 13 mars au 11 avril, les samedis et dimanches. Mais on sait peut-être moins que Marc Monet avait déjà la fibre de la direction artistique et de la programmation dès son séjour à la Villa Médicis à Rome à la fin des années 70, puisqu'il était l'un des organisateurs avec deux autres pensionnaires, Claire Chapira et Alain Gossin, de la semaine de musique contemporaine de la Villa qui se tenait en juin 1978. On pouvait y croiser Luciano Berio, Franco Donatoni, John Cage et Vinko Globokar, et y découvrir en création mondiale une très curieuse pièce pour deux pianos intitulée « Boîte en boîte à musique à système » de Marc Monet lui-même, interprétée par Antonio Ballista et Bruno Canino. Le compositeur en dira davantage tout à l'heure. Thank you.
Thank you.
Boîte en boîte à musique à système de Marc Monet en création mondiale par les pianistes Antonio Ballista et Bruno Canino le 26 juin 1978 à la Villa Médicis. Le compositeur réglait-il ici ses comptes avec le piano qu'il avait étudié très sérieusement tout jeune ? On est saisi par le mélange d'ironie et de gravité que Marc Monet manie avec brio, en bon disciple de Mauricio Kagel, en répondant au micro de Georges Léon, présent sur place à Rome en 1978 pour France Culture, juste après la création de sa pièce.
Ce qui m'a étonné là, c'est que j'avais beaucoup de mal à me concentrer pour écouter cette pièce et que je trouvais ça très ennuyeux. C'est-à-dire que il me paraît fondamental par rapport à cette pièce, et ça c'est une de ses réussites sans aucun doute, que effectivement, elle oblige l'écoute. S'il y a non-écoute, c'est-à-dire stade passif par rapport à cette musique, elle devient fondamentalement ennuyeuse. Et c'est ce que j'ai éprouvé là à l'instant. Parce que c'est une pièce, pour moi, très rigoureuse, pour faire plaisir aussi à Georges, un peu une pièce de l'excès. Ce qui m'intéressait là, c'est d'essayer de toucher le plus près possible tous les paramètres même de l'écoute et donc de ma pratique de musicien. C'est que je me suis refusé quasiment systématiquement à fuir l'idée d'enchaînement des accords et de résoudre ce problème toujours de verticalité, horizontalité, qui n'est pas un problème d'ailleurs, dans une absolue verticalité. Toute la polyphonie entre, mais dans une simultanéité des sons, verticalement. J'ai écrit cette partition quasiment accord par accord. J'ai mis donc un certain temps, parce qu'il y en a pas mal, et je n'ai jamais regardé derrière ce que j'ai écrit. Ça m'intéressait absolument pas. Et j'écrivais aussi dans une certaine rapidité. C'est-à-dire que j'ai essayé de laisser passer un maximum de choses, non pas dans une écriture automatique, parce que je crois qu'il faut être assez naïf pour croire à l'écriture automatique aujourd'hui, mais en laissant passer un maximum d'informations et en ne les censurant pas. C'est-à-dire que toute la partie du piano 1 n'a aucune correction par rapport au seul texte qui a été écrit. C'est un texte que j'appelle le texte sale. Et le deuxième piano est le texte formel, c'est le texte qu'on pourrait appeler un peu savant. J'ai voulu jouer un peu parce qu'il faut avoir un peu de plaisir quand même de temps en temps. Alors j'ai pris la partie du premier piano et je l'ai réécrite en écrevisse, mais j'ai fait une fausse écrevisse. C'est-à-dire je l'ai cassée et puis d'un seul coup je sautais complètement l'écrevisse, l'écriture en arrière.
Tout Marc Monet est déjà là en juin 1978 à Rome, dans cette façon d'inventer pour chaque œuvre une nouvelle manière de procéder. Au fil des années 80, le jeune compositeur développe ensuite des stratégies pour contourner l'institution du concert et de l'opéra en investissant le corps des musiciens ou des acteurs et des danseurs qu'il sollicite pour sa compagnie, qu'il dénomme « caput mortuum », « tête de mort ». En 1986, à Strasbourg, pour le festival Musica, Marc Monet conçoit ses inventions au fur et à mesure des répétitions, écrivant au jour le jour et retravaillant ensuite le résultat pour en présenter une version radiophonique avec un texte spécialement conçu pour l'occasion que le compositeur donne à entendre dans sa propre voix.
Un espace scénique très sombre. Côté court de la scène, c'est-à-dire du côté droit pour les spectateurs, quatre chaises noires et très modernes, avec un fessier bas près du sol et un dossier très haut, disproportionné. Également, deux grands cubes de bois noir, debout. L'un, celui qui est au centre de la scène, est de profil. L'autre, plus grand, et qui se trouve à droite, est debout, mais face au public, beaucoup plus impressionnant. Du côté jardin, en fond de scène, c'est-à-dire à gauche, toujours pour le spectateur, une table noire, elle aussi longue. En jeu sont quatre personnages, trois acteurs, une danseuse. Les trois acteurs sont M, JL, R. M est une femme. La danseuse s'appelle B. Au total, deux femmes, deux hommes. À droite et à gauche de la scène, deux haut-parleurs amplifient la voix des acteurs. Dans la salle, ce sont quatre haut-parleurs qui entourent le public, diffusant une bande magnétique réalisée avec la voix des acteurs. Au commencement, les acteurs sont habillés en costume de ville et entrent avec le public. Ils sont coiffés d'une façon très fantasque et très marquée, harde. Ils s'assoient avec le public, éloignés les uns des autres. Dès le commencement du chuintage de la lumière, ils se dirigent un à un vers la scène et montent sur le plateau. Ils marchent, touchent, regardent. La danseuse entre par le fond de scène. Ils se déshabillent, s'habillent, s'assoient, se lèvent, s'assoient, se parlent, se regardent. Et se dirigent en levant les jambes et en presque sautant vers le cube du centre de la scène et le fait tomber. Saute dessus, toujours de profil, lève toujours les jambes, de plus en plus haut et les bras en l'air, encore, et encore dessus, dessus, dehors, et puis hop, revient en arrière, toujours les jambes en l'air, les bras en l'air, derrière, revient, repart, revient, dessus, dessus, dehors, et lève, lève, lève les jambes et repart, et remonte sur le cube, et encore, et erre. Vers J.L. J.L. et tombe derrière lui. Et lui, en bâton, tape, il tape. Grand bâton comme celui de Jean. Au fond de la salle et tape. JL s'en va discrètement derrière B sur sa chaise. Elle s'assoit. Et R allongé de tout son long à travers sur le pont tombé. Sur la scène, il marche, comme une mécanique grecque qui aime pas toujours. Si elle marche toujours dans tous les sens, toujours. R de son cul se lève. Ayant fini de vociférer des sons. Très lentement, se retourne à sa chaise. B, la danseuse, revient sur la scène et se dirige au camp vers le bord de la scène. Tous au bord de la scène et dans ce fatras de tape, M et de Jean-Luc marche à. Sa genouille se relève. S'agenouille. Et Jean-Luc machine faire le cul immense du fond de scène, le dernier cube debout. Et il s'approche derrière rapidement et le fait tomber de toute sa hauteur et passe dessus. M du fond de la scène arrive vers le cube central et toujours avec son manche. Quand JL saute à nouveau sur le cube immense et tombe. Et M lance ses cris avec son bâton qu'elle tape dans tous les sens. Pendant que R traverse la scène pour arriver sur l'extrême côté jardin, à gauche de la scène, et puis JL qui reste statique sur son cube immense, et R qui se met à ébranler le sol de ses pieds immenses pendant que M, elle s'enfile le manche contre les arrières, et que lentement, elle le retire. Pendant que B, la merveilleuse danseuse qui manipule son corps en soupirant sur le sol de ses courbes ailées, et R qui chute, et M qui chute sur le sol auprès de terre, silence, écrasé de l'eau, pendant que B danse sur les lignes. Et les trois qui crient leurs écrasements, qui rient au labou du sud. Et la B, la danseuse, qui sort lentement en courbe douce de son air de jeu et revient paisiblement à son commencement, à sa chaise. Et JL, de son cube allongé, s'incline pour tomber et recommence à sauter sur les genoux de
violemment et avance en tapant le poing et en tournant le cul dont il tombe et inscrit son territoire pendant que les autres restent immobiles. M sort en arrière dans un déséquilibre et dans le tremblement de herbe dans ses vitesses éclosées en occupant toute la scène. Un mouvement en trois temps. Sur le tremblement d'herbe. Rien de... Un jeu de marche et d'escalier tout au long de la scène et s'arrête net. Et M, à genoux comme un jardinier, enfonce en traversant la scène de long en large son immense manche qu'elle essaie de faire traverser la scène. Et il s'accélère. Et R saute sur les marches. Saute. Et saute, et court, et baisse en va vers le feu, et revient en se tapant les cuisses sans violence, et R qui chante un air invraisemblable d'un temps haut, et JL qui tape de ses chaussures de bois les marches des escaliers qu'il tape. Les étranges bois de bois sur les marches qui marchent comme un... Et B qui tombe en convoqué le sol qu'on arrête infini pour le poids du sens. Et M qui traverse sa scène, la tête en arrière, pour voir si derrière c'était mieux. Pendant que JL tape de bois les marges de ses pieds de bois qui claquent. Et B s'arrête comme fichu dans la pierre. Et M qui prend deux manches pour marcher en travers du sens de la scène qui se libre par R, inconscient de ses deux manches. Jeune Geisha ne rattrape pas M, maîtresse. Et M et R qui sont tout dans l'ombre de la coulisse opposée. Racle toujours le socle d'un ignoble bois d'Israël comme pour prouver la résistance de ce qui fait semblant dans le monde de l'illusion. Qui le JL, rapidement de son socle vers la coulisse, et disparaît. Pendant que M, jardinier son l'heure de son bois frappe et traverse et coupe la scène pour mieux marquer son histoire de bois qui déplaît par sa déplaisance de fracture pendant que la danseuse se met à courir follement dans un coin étroit pour pousser les parois de cet impossible espace. Et que le son qui brûle sous le sicon qui peut la serre. M laisse tomber son manche, ce qui l'a fait fuir à le bout de son manche, qui déjà lui manque et revient en courant comme une folle, en courant dans une croix sacrificielle partagée par celle du mouvement du corps. B de la danseuse et M la recluse de son manche qui bande comme la... perturbée par R qui entre avec ses deux manches loin de la cura pour entonner un chant devenu inaudible dans le bois des énergies développées. Et R dans le noir qui sort de la place, et B qui vient s'écrouler en avant. Étape dans les coulisses opposées. Les R, les JL, ils sont les forces du démanche qui se répond. Et B
extrême se retourne sous les fesses en écartant.
Et R à gauche et JL à droite sortent en sautant avec leurs bâtons des coulisses pour venir à leur rencontre. Ils s'avancent l'un vers l'autre et ne se rencontrent pas. Et sortent ainsi dans le même sens. Sol. Épée sur le dos doucement, recourbée, lève la jambe vers les cintres dans un. Pendant que M entre subitement sur scène par grand saut, s'arrête. Et R qui frappe le sol de deux marteaux. M se dirige sur le cul immense en sautant à grandes enjambées et sort en coulisses. R monte sur le cul central tout en tapant de ses marteaux que pour faire sortir un Samson qui ne veut pas sortir. Oh, B qui glisse sur le dos, ses deux jambes vite rapidement. JL qui entre à genoux en tapant le sol avec des petits manches. M qui en violemment tapant le sol et stop de son éternel élément. R qui jette ses marteaux et vient vers le public et oh. Oh. Tombe en dehors de la scène.
M arrêté. R tombé, B doucement déployé, et JL soulève avec douceur, dans un épuisement, le cul pour recommencer le cercle d'invention qui continue et se renverse.
Invention de Marc Monet par la compagnie Caput Mortuum le 30 septembre 1986 à Strasbourg dans le cadre du festival Musica avec un commentaire du compositeur pour la diffusion radiophonique sur France Culture le 8 novembre de la même année. Vous écoutez France Musique, le concert du Carrefour de la Création. Le Carrefour de la Création, c'est chaque dimanche jusqu'à minuit et demi. S'il s'investit pleinement dans l'univers du théâtre, Marc Monet n'en délaisse pas pour autant les outils historiques du compositeur, comme l'orchestre ou le quatuor à cordes, mais en renouvelant les codes, notamment sur le plan formel. Créé en 1994 par le quatuor Arditi, Close, son deuxième quatuor, joue sur la fragmentation, les coupures, les silences, bien davantage que sur l'idée de développement. Close, deuxième quatuor à cordes de Marc Monet, créé à la Filature de Mulhouse en novembre 1994 par le quatuor Arditi. Ainsi se referme ce concert autour de quelques jalons de l'œuvre de Marc Monet, qui est aussi le conseiller artistique du Printemps des Arts de Monte-Carlo, qui s'ouvre dans quelques jours, le 13 mars. Nous en reparlerons la semaine prochaine, à la fois dans le concert d'archives, avec Bruno Mantovani, qui sera le prochain conseiller artistique du festival à partir de 2022, et dans le Carrefour de la Création, à 22h, puisque Thomas Vergracht recevra Marc Monet et Bruno Mantovani.
À réécouter sur francemusique.fr.